Bonjour à tous. Tous nos voeux pour cette nouvelle année, au nom du conseil, au nom de toute l'Église. On a une famille merveilleuse. Vous m'excuserez pour ma sensibilité. Voilà, je m'excuse.
Non, pas la peine.
Alléluia. Restons vraiment dans cette présence, c'est palpable. Le Seigneur, Saint-Esprit, il est là. Seigneur, nous sommes à tes côtés, Seigneur, à t'écouter, à t'entendre. Et Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous enverrai la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Ce matin, on est témoins devant toi, Jésus, tu es présent au milieu de nous et on veut te louer, te dire merci. Et Saint-Esprit, je compte sur toi. Tu connais ma faiblesse, tu connais l'amour que j'ai pour toi. Je te prie vraiment, Saint-Esprit, de conduire ce moment. Que ça soit riche pour chacun de nous, Seigneur. Tu veux parler à chacun de nous. Merci, Seigneur. Amen. On est tous spéciaux, n'est-ce pas? Mais moi, j'aime prendre du temps devant le Seigneur. Et puis, je demande au Seigneur... Qu'est-ce que tu veux pour l'Assemblée? Parce que, déjà, premièrement, il me menait d'encourager l'Église. S'encourager soi-même aussi, encourager l'Église. Et puis, je me dis, ben voilà, pour le premier, Jésus est l'alpha et l'oméga, du 1er janvier au 31 décembre, c'est un grand parcours. Et puis, il m'a donné Hébreux 12. Alors, j'ai lu, parce que la première chose qui me vient, quand je suis dans l'onction du Seigneur, je le prends. Et je vais vous le partager ce matin. Avec mon cœur. Hein. Voilà. Alors, Hébreux 12, ceux qui peuvent suivre. C'est un parcours d'encouragement. Il faut vraiment le prendre dans l'amour de Christ. Et je vous le dis. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et aujourd'hui, c'est là qu'il est, Jésus. Il est assis à la droite de Dieu et il nous seconde par le Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. En luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Ce n'est pas marqué, mais aussi des filles. On est tous pris dedans. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme à des fils que Dieu nous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt de châtiment, auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Mais nous sommes fils et filles. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour un peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Voilà, nous venons de quitter une année et nous recommençons une nouvelle année. M'excuse. Et cette année, devant nous, on ne sait pas de quoi elle sera faite, en sachant que Jésus est tous les jours avec nous. Et les Hébreux ici, on est en 68 après Jésus-Christ. Donc ça fait 35 ans que Jésus est monté au ciel. C'est une église qui est jeune, mais qui est remplie de l'Esprit, puisqu'il y a un réveil. Alors on a des Juifs qui sont remplis de l'Esprit, la première église, on peut dire. Et il y a encore des gens à Jérusalem, cette bonne nouvelle est à l'extrémité du monde, mais il y a encore des gens qui doivent rentrer dans cette église, cet appel. Et ce matin, bien c'est un cri que je lance. Il y a encore des gens qui ont un pied dans le monde et puis un pied dans l'église. Et on doit vraiment, vraiment se consacrer à l'Éternel. Pour ce faire, il nous dit qu'on est environné d'un si grand témoin. En ce temps-là, je pense que toute cette bonne nouvelle, tout le monde a été ébahi d'entendre cette nouvelle. Et nous, Église de la Chaux-de-Fonds, nous sommes témoins dans cette ville. On est environné aussi de personnes. Et il nous dit, pour avancer, eh bien, rejetons tout fardeau. Tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance. Des fois, on doit courir, des fois, on doit marcher. Mais ici, le Seigneur, vraiment, il nous dit, rejetez tout fardeau. Ce qui est derrière, on doit l'oublier. Et ce qui revient, on doit demander pardon au Seigneur. Pour libérer le passé, pour libérer son cœur, son âme. Qu'on n'avance pas dans le chemin que Dieu nous montre avec des fardeaux. Il le dit, déchargez-vous, rejetez tout fardeau. Le Seigneur connaît notre conscience, il veut qu'on soit pur dans sa présence. Et courons avec persévérance, marchons avec persévérance. Pas après pas, n'abandonne pas le Seigneur. Mais prenez courage, le Seigneur est avec nous. On est dans un monde vraiment basculé, bizarre. On peut vraiment partir d'un coin à l'autre, tout est chamboulé. Mais le monde nous regarde, le monde regarde l'Église aujourd'hui. Que fait-elle? Vraiment, l'appel est fort pour qu'on puisse se lever, pour servir le Seigneur. Ce parcours de cette année, on pourrait le prendre comme exemple, comme une course, un marathon, tout au long de cette année. Et puis il nous dit d'entrer dans cette carrière, parce qu'on ne la connaît pas. Puis Jésus, le chemin, il est la vérité et la vie. Et on est sur ce chemin étroit dans la vie. Des fois, il y a des rocailleux, on peut se faire mal ou on peut se tordre le pied. Mais le Seigneur est toujours là pour nous relever. Si on a passé une année difficile, pénible, le Seigneur est avec nous, il n'a pas changé. Il veut nous fortifier, nous encourager et puis qu'on puisse faire des expériences vraiment au travers de tout cela. Courir avec persévérance et tout rejeter, tout ce qui est trop lourd. Il est dit, dépose à la croix ton fardeau. Ce matin, vraiment, le Seigneur veut libérer pour qu'on puisse marcher sur ce chemin, courir libre. Un athlète, il veut être le plus léger possible pour arriver au but, à la victoire. Eh bien, nous, on a les yeux fixés sur Jésus pour cette année. Et on attend de lui vraiment le secours, la direction qui conduise. On a peut-être des défis à avoir, des choses à faire, à prendre des décisions, bien qu'on le fasse avec le Seigneur. Ce n'est pas un chemin facile, la foi, puisqu'il nous dit de persévérer. Nous passons tous par des épreuves. Sachant que Jésus... Excusez. Sachant que Jésus est notre modèle. Et Jésus a souffert à la croix. Il a été méprisé, l'ignominie, déshonneur extrême. Vraiment, on l'a rejeté. Jésus a supporté contre lui une telle opposition de la part des pécheurs. Et s'est laissé humilier, abandonner des hommes. J'ai pris ça comme exemple parce que souvent en tant que chrétien, on est mis de côté. On n'est pas, on ne cherche pas les honneurs, mais le Seigneur est ce chemin. Des fois, on passe par l'humilité, l'humiliation. Merci. Merci Seigneur, il pourvoit. Alléluia. Oui, j'aimerais vraiment vous encourager. On est une famille, hein. Et puis, voir Jésus. Si vous prenez Ésaïe 53, il y a tout le chemin, le parcours que Jésus a eu. Vous rendez compte, lui, fils de Dieu, avec toute la puissance qu'il a, il a dit, j'aurais pu commander une armée et abolir tout, non. Non, son chemin, c'était la souffrance. C'était le déchirement. Il s'est laissé, comme on dit, un agneau à la boucherie. Et c'est vrai. Et quand on voit les coups et tout, je pense qu'il n'était pas beau. D'ailleurs, il y a des passages dans la vie où il a dit mes os, ils ont compté mes os et tout. C'est horrible comme souffrance. Eh bien, Jésus, il l'a fait par amour pour nous. Et nous dit ce qui est merveilleux, au bout du 53, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est fort cela, parce que Seigneur Jésus, que toute maladie soit réprimée, que toute chose soit anéantie. Jésus, il a condamné Satan à la croix, il a marché sur la tête du serpent, et on est tous plus que vainqueurs. Et ça, c'est par la foi. C'est par la foi. Quand on voit les témoignages de nos frères persécutés dans le temps, eh bien, ils ont marché par la foi, mais ils ont vu des victoires. Alléluia. Oui, cette carrière, on ne sait pas ce qui va nous arriver. On veut la bénédiction, mais le Seigneur, il a un plan pour toutes les nations. Et on sait que tout se met en place, tout se met en place. Et c'est pour ça qu'on peut vraiment se décharger, qu'on n'ait pas d'inquiétude, mais qu'on soit l'âme serein. Que vraiment on soit les gens les plus heureux du monde. Parce qu'on sait où on va. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et on est libéré. Jésus à la croix, il a dit, je libère mon peuple. Et c'est pour ça sa mission, elle est venue pour faire cela. C'est très fort parce que... Oui, le Seigneur est proche. Amen. Quand on voit, on entend les nouvelles, j'étais surpris, c'est la première fois que j'ai entendu, qu'il veut bientôt construire le troisième temple. Tout est prêt, la vache rouge, les vaches rouges, tout. Il n'y a plus qu'une chose, comme il a dit dans la Bible, mais bon, il faut que le dôme s'écroule. Et un jour, Dieu va le toucher. Et là, ça sera formidable, mais après, ça va s'enchaîner. C'est pourquoi, chrétiens, nous, on doit vraiment se mettre à part pour dire, Seigneur, mais Seigneur, je vais être dans ta volonté parfaite. Et dans Paul, c'est pas Paul qui a écrit les Hébreux, on ne sait pas, hein, mais Paul, dans Philippiens 3, 13, 14, c'est beau l'exemple qui dit, « Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, ça veut dire à la gloire de Dieu, on veut toujours plus cette puissance de Dieu, on veut un réveil, on veut des guérisons, on veut ressusciter les morts, on veut cela, c'est notre désir. Pourquoi ? Pour montrer au monde que Dieu est vivant. Portant les regards en avant, je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Voilà notre vocation. Elle est en Jésus-Christ dans les lieux célestes. C'est par la foi, hein, que ce matin, comme on l'a senti, on l'a dit, Seigneur, qu'on monte d'un cran, qu'on ne reste pas terre à terre, mais c'est spirituel, on juge ces choses spirituelles, parce qu'on marche par la foi. Quand Jésus a dit à Pierre, « Viens, Pierre, marche », il est allé sur l'eau, puis il a tenu. Ça, c'est la foi. Mais après, l'anxiété, la peur, il a coulé. Et c'est ça avec Jésus, restons fermes dans la foi. Pas noyé, non, il a pris la main. Amen. C'est un miracle. Oui, regardons en avant. Notre vocation en tant qu'Église, il nous encourage à persévérer dans notre appel. On a tous reçu un appel. Et ça, c'est beau parce que c'est en se mettant de côté, prendre du temps. Bien sûr, il y a le travail, mais prendre du temps quand on a la liberté de se consacrer à l'Éternel et d'entrer dans ses parvis, d'entrer dans cette communion intime avec le Seigneur. Il parle, il parle. Nous, peuple de Dieu, nous avons été rachetés par le sang de Christ. Nous sommes ses enfants. Et puis plus loin, il dit, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Pour moi, c'est un peu difficile de partager cela parce que on a un Dieu d'amour. Mais pourquoi ? Et puis plus loin, il le dit, et c'est pour qu'on arrive à la sanctification. Parce qu'il nous aime, il nous châtie. Et cette situation-là, bien, ces moments-là, il ne faut pas se sentir rejeté par Dieu. Ce n'est pas son but de nous rejeter. S'il le dit très bien, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ? Pourquoi ? Parce que le Seigneur, il nous montre qu'on doit veiller les uns sur les autres afin que l'un n'aille pas partir dans l'enfer. On doit rester sur ce chemin étroit. Et la correction, elle peut être verbale, elle peut être bon, mais c'est pour nous redresser. Et comme il est dit, nos pères nous châtiaient, c'est vrai. Moi, j'ai passé par là et j'ai appris à obéir à mes parents parce que j'étais... Voilà, mais j'ai appris à respecter et j'ai appris une leçon. Et je pense que c'est aussi ça, mais Dieu, il est dans la douceur, il nous aime. Et ce n'est pas pour nous condamner, pour nous rejeter si on passe par des temps d'épreuve. Souvent, quand c'est ça pour moi, je m'assieds et je dis, « Seigneur, au travers de ça, tu veux m'apprendre quoi ?» Et souvent, il me montre... Pour quelle raison je suis dans cet état ? Mais on a une porte de secours, ce qui est merveilleux. Eh bien, c'est le pardon. On peut se repentir et tout redéposer au Seigneur et repartir à zéro avec Jésus. Il est encore temps de pouvoir se remettre vraiment, sincèrement, en ordre devant son Dieu. Ouais. Le Seigneur, il veut vraiment nous former pour notre appel, notre sanctification. Il dit que c'est un Dieu jaloux. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Imaginez-vous, On ne touche pas à loin de l'Éternel. Si on touche à un enfant, on touche à la prunelle de Dieu et c'est la partie la plus sensible. Quand on a un petit chenille, ça fait mal. Eh bien, on est la prunelle des yeux du Seigneur. Et il nous donne la force d'obéir à sa parole et à ses commandements. Amen. Alléluia. Que le Seigneur puisse enrichir sa parole au travers de ce qu'il nous dit ce matin. Voilà, on est environné de témoins. Qu'est-ce qu'on représente, nous, chrétiens, dans la ville, dans nos familles? Et il m'est venu un beau passage. C'est dans le Saint-Testament, c'est Joseph. Parce que, on doit, comme il est dit, hein, on a tous part à cette correction. Personne n'est meilleur que l'autre. Dieu veut nous apprendre à vivre avec lui. C'est comme une brebis qui va trop loin, il prend son bâton, puis il la tire avec la patte, quoi. Et il la ramène au troupeau. C'est question d'une obéissance. Et là aussi, c'est une image. J'encourage vraiment que s'il y a des gens qui se sentent mieux à la maison, mais venez à la bergerie, venez avec la famille du Seigneur. Parce que les loups, ils attaquent souvent ceux qui sont isolés. Alors que nous, on est en famille, quoi qu'il y ait, on prie les uns pour les autres, on se porte les uns pour les autres. Merci Seigneur. Et cet homme, vous le connaissez tous, vous connaissez son histoire, mais elle est tellement vraie, parce qu'on n'est pas les seuls à souffrir. Nos frères de l'Est, il y a des guerres, il y a tout, on peut prier pour tout ce qui se passe. Mais le Seigneur, il a tout, c'est pour ça qu'on ne doit pas apporter. C'est Joseph, vous le connaissez, hein. Joseph, dans Genèse 37, c'est un jeune garçon et il a été éduqué par son père, Jacob. Jacob, c'est un homme de Dieu, c'est un homme de révélation et il a donné l'enseignement à ses fils. Mais le plus, c'est à Joseph. Joseph a connu vraiment ce qui est marqué dans la loi, quoi. En ce temps-là, mais il avait vraiment un cœur à l'Éternel, Joseph. Et dans son jeune âge, on peut pas, je ne sais pas quel âge, mais je pense, quand on donne des responsabilités, c'est quand même 15, 14, 13, jusqu'à 17 ans, eh bien, il est le chouchou de Jacob, il l'envoie vers ses frères pour leur donner la nourriture et dire, ben, tu m'apporteras des bonnes nouvelles d'eux, comment ils vont? Va vers tes frères. Mais voilà. C'est un enfant que je n'imaginais, mettez-vous à sa place. Nous, on a vécu ces choses en tant que jeune, famille. Eh bien, Joseph, il perd sa mère très jeune, Rachel, qui meurt. Donc, lui, il est avec son père, et puis il fait ses besoins tous les jours, quoi. Puis, il va vers ses frères, qu'est-ce qui se passe? Imaginez-vous en tant qu'enfant, on est jeune, hein. Ses frères le trahissent. Ils commencent à avoir de la haine contre lui. Un peu comme nous, si on est rejeté. Mais c'est vrai, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Mais c'est ça. Il est séparé de sa famille. Il est vendu par ses frères comme un esclave. Imaginez-vous, un jeune homme de 16 ans, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce qu'on va lui donner? Des fardeaux puis des... Non. Il le donne comme esclave. Mais Joseph est toujours avec son Dieu, parce qu'il a reçu l'enseignement de son père. Et c'est là que c'est un point que les familles, nous, parents, grands-parents, qu'on puisse enseigner nos enfants. Parce qu'un jour, quand ils viendront âgés, s'ils n'ont pas la parole de Dieu, ils ne sauront pas comment se débrouiller, ils seront paumés. Parce que le Seigneur, il dit que la parole, c'est une lumière, il éclaire notre chemin. Voilà, alors, Joseph part en Égypte, il est reçu chez Potiphar, et puis Potiphar, il voit que l'Éternel est avec Joseph. Il l'établit dans sa maison, et tout ce qu'il lui fait, lui réussit. Et c'est vrai, on est béni. On est béni. Le Seigneur veut bénir nos mains, notre intelligence, il veut nous renouveler, il veut bénir notre poste de travail. Tout lui réussit. Et je peux dire, dans ma fonction jusqu'à la retraite, vraiment, j'ai vu la main du Seigneur. On a été béni. Et on l'est encore. Merci Seigneur. Mais c'est pour montrer l'épreuve de ce jeune homme, voyez. Puis ça ne suffit pas. Chez Potiphar, un jour, la femme de Potiphar, elle veut coucher avec Joseph. Imaginez-vous, un beau garçon. Mais ça, c'est le monde, hein. C'est une figure du monde qui nous attire pour nous faire perdre. Elle veut coucher avec lui, mais Joseph s'enfuit dehors. Il fuit. Il ne discute pas, il fuit. Et c'est beau ce qu'il dit. Joseph dit dans Genèse 37, « Comment ferai-je un aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu ?» Voyez, cette parole s'adresse aussi à nos jeunes où on croit que tout est libertinage. Non, Joseph, il sait les conséquences. Malgré toutes ces épreuves, Joseph est resté fidèle à son Dieu. Alléluia. Et puis, il a été trahi par cette femme. Bien sûr, elle a été malhonnête. Et lui, il en a eu pour 2 ans de prison. Rien qu'à cause qu'il a refusé. On a aussi Étienne, Jean-Baptiste. Ce sont des héros de la foi, ces hommes. Ils ont vu Dieu agir. Et nous, malgré, c'est pour vous encourager, malgré l'épreuve, Dieu est avec nous. Il dit que, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Jésus est réellement ressuscité. Il désire être en communion intime avec nous. Alléluia. C'est pour ça qu'il veut notre bien et qu'il nous reprend. Dans le psaume 37,4, « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ton cœur, ce que ton cœur désire. » Et dans psaume 16,11, « Tu feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Il parle de ce sentier, le chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. On est sur ce chemin étroit avec Jésus. Et dans ce chemin, si on y rentre, on s'attarde sur ce chemin, eh bien on rencontre des délices. Ce sont ces temps vraiment où on ressent la présence, où on ressent la paix. Jésus est assis à la droite de Dieu et il dit, il intercède pour nous, il prie pour nous. Et Jésus déclare dans Jean 17, 20, 22, c'est très fort comme prière, et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient en nous. Voyez ce rapport extraordinaire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et nous, on est avec. Alléluia. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé, Jésus désire cette communion intime avec nous. Aujourd'hui, le monde se réfère plus à la parole de Dieu. Le monde écoute ce qu'il voit, leur penchant de leur cœur qui n'est pas... Voilà. Le monde est aveugle et il sait où il va. Il ne sait pas. Il ne sait pas où il va. Mais nous, en tant que chrétiens, nous en voyons les conséquences de cette désobéissance. Mais le peuple de Dieu, Dieu nous donne Jésus pour que nous puissions le suivre et marcher selon sa parole qui éclaire notre chemin. Et c'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église. Amen. Et il nous conduit chacun personnellement. Alléluia. Proverbe 4, 23, il dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Et notre cœur, on doit vraiment le protéger. Parce que c'est de là que viennent les maux et les souffrances, parce que on écoute n'importe quoi. Non, on doit vraiment prendre nos limites. Afin de ne pas pécher, on doit se protéger. Nous sommes des enfants de lumière, et c'est pourquoi nous sommes dans la paix. Oui, parce que Jésus nous donne cette lumière, cette clarté. On sait où on va, on sait où on... avec la parole. Il nous donne la paix. Et nous voulons persévérer dans cette présence du Saint-Esprit. Dieu nous fait grâce de vivre dans sa présence, comme ce matin. C'est des moments riches, bénis, de paix. Il nous donne du temps encore pour nous sanctifier. Tant que le retour n'est pas arrivé, sanctifions-nous. Alléluia. Il nous dit, dans Hébreux 12, 14, « Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Vraiment, Dieu, il nous aime. Et s'il nous reprend, c'est parce qu'il nous aime et il nous veut tout à lui. Tout à lui, c'est un Dieu qui est jaloux. Amen. Alléluia. Et puis, j'ai demandé, mais Seigneur, qu'est-ce que tu nous donnes comme promesse pour 2023? Hein? J'ai couché un enfant, moi. Puis j'y pose la question. Puis il me dit, ben, le psaume 23. Alors, je vais vous le lire. Je vais vous le lire. Bon, tout le monde le connaît, mais il est tellement riche. Et ça confirme un peu le message. Voilà. Mais que, en tout cas, mon cœur prie le Seigneur pour que chacun soit béni et qu'il ne se sente pas abandonné. C'est tellement riche. C'est tellement riche. C'est pour ça, criez quand vous avez besoin. Faites le signe. On prie les uns pour les autres. Alors, c'est David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est déjà une promesse fantastique pour cette année. Il ne va rien nous manquer. Alléluia. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ben, il nous a parlé avant de la carrière, il y a des cailloux. Mais là, c'est un pâturage. Aussi, on a besoin d'être reposé dans un lit douillet, quoi. De l'herbe fraîche. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Et c'est vrai, quand on est fatigué, mais dans sa présence, il restaure notre âme. Il enlève toute angoisse. Il enlève tout préjugé. Il enlève tout. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia, c'est la joie, hein? C'est le bonheur. Et il dit plus loin, oui. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à Jésus revienne. Qu'on puisse se réjouir, qu'on puisse vraiment dire, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, prends tout. Alléluia. Amen. Saint-Esprit, merci pour ta parole. Tu vois que j'étais inquiet, mais je vois que tu m'aides. Et merci, Seigneur, parce que tu vas au-delà de cette prêche. Tu vas au-delà de ce qu'on a entendu. Seigneur Jésus, Saint-Esprit, je te demande vraiment de consoler, de bénir, de réconforter tous mes frères et sœurs qui passent par des temps difficiles. Ouais, Seigneur Jésus, tu es ce bon berger qui prend soin de chacun de nous. Seigneur, touche vraiment là où il faut qu'il puisse se relever, qu'il puisse se fortifier. Merci Seigneur pour tes bontés, elles se renouvellent chaque matin. Seigneur Jésus, merci parce que tu dis comme dans l'Apocalypse, Maranatha, oui viens Seigneur Jésus, et il revient bientôt. Et il faut que l'Église se prépare. Merci Seigneur. Et priez aussi pour nos autorités, qu'ils fassent le bon plan. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen.